Laudetur Jesus Christus.
Attaque dans la nuit de samedi à dimanche de l'Iran contre Israël. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés pour Téhéran. Il s'agit de sa réponse à l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas. Face au risque de confrontation directe entre Israéliens et Iraniens, le pape a lancé un fort appel à la paix lors de la prière du Regina Celli. Nous l'entendrons juste après les titres. La communauté internationale a eu peur pendant quelques heures que la guerre dans la bande de Gaza ne s'étende à tout le Proche-Orient, mais la bataille entre Téhéran et Tel Aviv ne s'est poursuivie qu'à la tribune des Nations Unies. Pour les Palestiniens et plus encore pour ceux qui sont dans la bande de Gaza, la crainte est de voir leur sort passer au second plan, alors que le gouvernement israélien n'a renoncé en rien à son objectif principal, éradiquer le Hamas. Les combats et les bombardements se poursuivent dans les villes de l'enclave. Haïti dispose enfin de son conseil présidentiel de transition, mais la principale question demeure, comment agira-t-il pour remettre de l'ordre dans le pays en plein chaos ? Il y a un an commençait la guerre civile au Soudan. Nous entendrons le témoignage d'un prêtre demeuré dans le pays pour aider ses paroissiens. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, un appel fort à la paix et à la raison, à la mesure de la crainte que le monde a eue ce dimanche de voir la guerre dans la bande de Gaza embraser tout le Proche-Orient. Celui du pape François, hier midi, après la prière du Regina Celli, alors que l'Iran avait lancé dans la nuit de samedi à dimanche près de 300 drones et missiles balistiques sur Israël, en représailles à l'attaque israélienne du 1er avril sur le consulat iranien à Damas. Les chancelleries à travers le monde ont appelé au calme et à ne pas tomber dans la surenchère. Le Saint-Père a donc lui aussi élevé la voix.
Je suis à travers la prière et avec préoccupation et même avec douleur. Les nouvelles parvenues ces dernières heures sur l'aggravation de la situation en Israël à cause de l'intervention de la part de l'Iran. Je lance un appel sincère afin que cesse toute action qui puisse alimenter une spirale de violence qui risque d'entraîner le Proche-Orient dans un conflit belliqueux encore plus grand. Personne ne doit menacer l'existence d'autrui. Que toutes les nations se rangent au contraire du côté de la paix et qu'elles aident les Israéliens et les Palestiniens à vivre dans deux États, côte à côte, en sécurité. C'est leur désir profond et légitime, et c'est leur droit. Deux États voisins. Que l'on parvienne rapidement à cesser le feu à Gaza et que l'on parcourt les voies de la négociation, avec détermination. Que l'on aide cette population précipitée dans une catastrophe humanitaire, qu'on libère tout de suite les otages enlevés il y a des mois. Combien de souffrances. Prions pour la paix.
Le pape François hier lors du Regina Celli, le calme est donc revenu au Proche-Orient. Téhéran, qui a donc agi en représailles à l'attaque israélienne contre son consulat à Damas, a assuré dès hier matin que l'affaire peut être considérée comme close, mais que si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère. Même si l'heure, semble-t-il, est donc à l'apaisement, la crainte d'une généralisation du conflit israélo-palestinien à l'ensemble du Proche-Orient a été grande tout au long de la journée de dimanche. Israël et l'Iran ont d'ailleurs poursuivi leur affrontement hier, mais avec les mots à la tribune des Nations Unies. Les deux États s'accusent mutuellement d'être la principale menace pour la paix et appellent maintenant Delphine Allaire, le Conseil de sécurité, à imposer des sanctions à leur ennemi.
Oui, Xavier, une réunion d'urgence convoquée par l'État hébreu lors de laquelle l'ambassadeur israélien à l'ONU a vertement ciblé la République islamique comme premier soutien mondial du terrorisme. Il demande au Conseil de sécurité d'agir en désignant les gardiens de la révolution comme organisation terroriste et d'imposer à l'Iran toutes les sanctions avant qu'il ne soit trop tard. Proposition appuyée par les États-Unis qui vont examiner les mesures additionnelles pour que l'Iran soit tenu responsable ici dans l'enceinte onusienne. Côté iranien, on accuse le Conseil de sécurité d'avoir failli à son devoir en ne condamnant pas la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Dans ces conditions, la République islamique d'Iran n'a pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense, rétorque son ambassadeur, assurant que Téhéran ne veut pas d'escalade mais répondra à toute menace ou agression. La plupart des membres du Conseil, eux, appellent à la retenue. Ni la région, ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre, a déclaré Antonio Guterres. Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur. C'est donc le moment du désamorçage et de la désescalade, tense le secrétaire général, condamnant à la fois l'attaque iranienne contre Israël et la frappe contre le consulat iranien à Damas.
Delphine Allaire et les dirigeants des pays du G7 réunis hier par visioconférence ont eux condamné unanimement l'attaque iranienne. Ils se disent prêts à prendre des mesures contre Téhéran. Ils s'engagent aussi à fournir plus d'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza tout en continuant à travailler en vue d'un cessez-le-feu immédiat et durable et de la libération des otages par le Hamas. Cette attaque iranienne ne fait pas dévier Israël, en tout cas de son objectif d'éradiquer justement le Hamas. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou l'a répété. 2 brigades de réserve supplémentaires seront d'ailleurs envoyées dans la bande de Gaza dans les prochains jours pour maintenir la pression sur le mouvement islamiste palestinien. Mais rien n'a été décidé concernant une hypothétique nouvelle attaque contre les intérêts iraniens. Pour les Palestiniens, et principalement ceux de la bande de Gaza, une des craintes est celle d'une extension du conflit qui marginaliserait leur sort. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Pour les Palestiniens, ces attaques iraniennes sans précédent contre Israël sont comprises comme une réponse légitime à l'attaque meurtrière israélienne contre le consulat iranien à Damas et montrent combien les rapports de force sont en train de changer dans la région. Ils sont également conscients du risque d'escalade régionale dont ils pourraient payer un prix encore plus fort si la situation dans la bande de Gaza était marginalisée, alors que les risques de génocide reconnus par la Cour de justice internationale se sont transformés en situation de génocide, selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese. Malgré les ordonnances de la Cour internationale réitérées le mois dernier à Israël pour empêcher un génocide, la puissance occupante poursuit ses bombardements dans la bande de Gaza et entrave toujours très sérieusement l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire selon les Nations Unies, même si quelques améliorations ont été signalées ces derniers jours, comme la réouverture de boulangeries dans la ville de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'Afghanistan, touché par les inondations depuis vendredi, 33 personnes ont perdu la vie à cause de crues subites dues aux fortes pluies dans une vingtaine des 34 provinces du pays. La plupart des décès sont imputables à la chute de toitures. En mars, une soixantaine de personnes avaient été tuées après de fortes précipitations. En Tanzanie, cette fois, les fortes pluies de ces dernières semaines ont provoqué la mort de 58 personnes selon un dernier bilan, parmi eux 8 écoliers dont le bus a été emporté par les eaux. Les plus graves inondations ont eu lieu dans la région côtière. Le mois d'avril marque le pic de la saison des pluies en Tanzanie. Nouvelle attaque ce week-end des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la région de Beni tout particulièrement. Entre 10 et 15 civils ont perdu la vie. La plupart auraient été décapités par ces rebelles affiliés au groupe de l'État islamique. Cela fait un mois qu'un quartier de la ville est régulièrement attaqué, dénoncent les autorités locales. Une structure sanitaire a notamment été pillée. Il aura fallu plusieurs semaines pour qu'il prenne forme et qu'il soit institué. Le Conseil présidentiel de transition en Haïti, officialisé vendredi soir. Cette instance, avec l'aide de la communauté des Caraïbes, des États-Unis, du Canada et de la France, doit permettre en principe le retour à la normale dans le pays. Mais reste à savoir quand et surtout comment. Les précisions de Franz Emmanuel.
Le décret annonçant officiellement la création du Conseil présidentiel de transition vient d'être publié au Moniteur, le journal officiel en Haïti. Et déjà une première question. Quand arriveront les prochaines étapes, à savoir la nomination de Premier ministre et la mise en place de gouvernements provisoires pouvant exercer leurs fonctions jusqu'au 7 février 2026 au plus tard. Alors, qui est quand ? Le peuple haïtien, lui, a l'habitude d'attendre tout en faisant le constat que ses conditions de vie et de survie se dégradent chaque jour davantage. Un peuple haïtien qui croit de moins en moins en l'action politique, même sous couvert de la communauté internationale. Et pourtant, sur le papier, le Conseil présidentiel de transition entend s'attaquer au rétablissement de la sécurité publique nationale, à une réforme de la Constitution et bien entendu à l'établissement de conditions pour des élections démocratiques, crédibles et participatives. Sans oublier la restauration de la justice et de l'état de droit. Un programme gigantesque alors que le pays et surtout Port-au-Prince sont en plein chaos. La capitale vient de voir près de 100 000 de ses habitants fuir la violence des gangs, faisant régner leurs lois quand ils veulent, où ils veulent, sans guerre d'opposition. Fort de France, Franz Emmanuel, Radio Vatican.
Avant de passer au dossier, un mot de la catéchèse du pape hier avant la prière du Regina Celli. François a invité à partager sa foi en Jésus et à raconter à ses proches, à sa communauté, à ses collègues le moment de notre rencontre avec le Seigneur, comme le firent les disciples d'Emmaüs au Cénacle. Pour plus de précisions, rendez-vous bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va. Une conférence internationale s'ouvre aujourd'hui à Paris sur le Soudan avec l'idée, selon le ministère français des Affaires étrangères, de faire remonter la crise au sommet de l'agenda international, sans toutefois que les Soudanais soient conviés à cette conférence. Le risque en effet est que la guerre civile entre le général Al-Bourhan, chef de l'armée, et le général Daglo, chef des paramilitaires, qui déchire le pays depuis exactement un an, ne soit oubliée, et avec elle, la population. Or, celle-ci fait face à une des pires crises humanitaires, la pire crise de déplacement et bientôt la pire crise de la fin du monde, selon l'ONU. Les violences et les exactions contre les civils sont la norme. Fuir dans d'autres régions du pays ou à l'étranger, pour de nombreux Soudanais, la seule solution. Dans ce contexte, l'Église veut rester signe de la présence de Dieu et continue à soutenir les chrétiens. Dans la ville d'El Obeid, un prêtre missionnaire qui préfère rester anonyme témoigne de cette volonté d'aider la population et de partager avec elle les difficultés de la guerre.
Le pays est bloqué, il est dans une impasse. En tant qu'Église, notre choix c'est maintenant de rester, aider, accompagner, rester avec nos chrétiens pour les aider dans ce moment de difficulté. Nous avons 3 centres. La plupart des activités sont dans les centres parce que la cathédrale, elle est encerclée par les militaires parce qu'ils ont peur des milices armées. Ceux qui sont partis l'année dernière, ce sont ceux qui ont pu trouver quelque chose. Donc surtout à Wao, ils ont été réemployés dans les écoles des Salésiens et d'autres avec les relations avec la famille à Djouba, dans la capitale du Sud, etc. Ceux qui sont ici à El Obeid, maintenant, oui, on essaie de se débrouiller par ce qui est l'activité principale, le commerce, des petits restos dans la rue, comme ça.
Alors que l'on compte depuis le début de la guerre, il y a un an, 6,5 millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts. Est-ce que les chrétiens tentent également de fuir le pays?
Les Soudanais, en général, ce qu'ils cherchent, c'est de fuir du pays. Ça, c'est sûr. Les Soudanais, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, essaient de fuir, s'ils ont la possibilité de fuir en Europe ou ailleurs. Nous, en tant qu'Église, nous n'essayons pas de les faire fuir, disons, parce qu'eux-mêmes, ils ont les moyens de le faire. Ce que nous essayons de faire, c'est de qu'ils puissent rester sur place. Nous avons ouvert des écoles dans nos centres pour qu'ils puissent suivre les matières fondamentaux, l'arabe, l'anglais, les mathématiques, tout ça. Donc, notre effort, c'est que ils puissent rester sur place, et leur donner la possibilité de vivre ici. Nous avons eu des chrétiens qui sont fuis dans la route qui mène au Libye. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui essaient de rejoindre la Libye par le désert et dommage, ils meurent dans cette voie. Et il y a eu aussi des chrétiens qui sont morts. Nous avons eu des nouvelles.
Alors que certaines communautés religieuses ont également fui, que les Soudanais veulent partir, comment l'Église peut-elle offrir la possibilité aux chrétiens de rester au Soudan, de rester dans leur pays?
Pour ce qui concerne les moyens de survie, ils sont très peu, mais quand même nous avons les moyens pour voir nos non-nécessités. Mais la chose la plus importante, c'est que la présence de l'Église, c'est comme un baisement. Nous sommes, c'est la présence de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés dans ce moment difficile. Donc, plus des questions matérielles, c'est une question vraiment d'esprit. Il faut, pour nous, disons, évêques, prêtres religieux, nous sommes pour nos chrétiens cette roche, cet élément, basement qui dit « non, nous sommes là ». Et avec vous, nous marchons ensemble jusqu'à ce que le Soudan aura la paix. Donc, plus que des questions matérielles, c'est une présence, disons, simple, qui partage les difficultés, qui partage parfois la manque de nourriture, la faute, manque d'électricité et d'eau. Mais c'est justement ce partage des difficultés quotidiennes qui fait que, justement, l'Église est un élément fondamental d'espoir et de sûreté pour les chrétiens.
La guerre civile au Soudan, l'engagement de l'Église auprès des chrétiens, un sujet préparé par Jean-Benoît Harel qui était ce matin le dossier de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ainsi que notre page Facebook ou notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.